Pascal Égari sur RTL.
Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Recevoir ces jours-ci vos beaux messages personnels qui parlent beaucoup de présence m'a donné envie d'évoquer avec vous le thème de l'isolement. En effet, les vacances signifient souvent l'évasion, l'envol pour ceux qui partent, mais peut signifier l'isolement pour ceux qui restent. L'isolement et la solitude, ce n'est pas la même chose, donc cela n'appelle pas les mêmes solutions. La solitude est un sentiment lié à la façon dont vous percevez mentalement votre situation, il peut donc être changé. En revanche, l'isolement est un fait, une réalité bien concrète. Comme l'indique l'origine du mot, insula, qui veut dire l'île en latin, vous êtes physiquement séparé des autres membres de la société, vous n'avez pas assez de personnes avec lesquelles interagir. La question doit être prise au sérieux, car les sciences de l'humain les plus avancées, comme la biologie cellulaire, confirment que nous avons, pour notre santé physique et psychique, un besoin vital de liens sociaux, de communauté. Besoin parfois plus vital encore que celui de nous nourrir. On peut mourir d'isolement, et ce à tout âge. La première des clés consiste à ne pas minimiser le problème. Non, on ne s'adapte pas à l'isolement. Et oui, toutes les actions pour en sortir sont utiles, même si elles nous demandent au début un peu d'effort et d'inventivité. Deuxième clé, il est souvent plus simple d'offrir que de demander. Offrir de rendre service à un voisin, offrir les fleurs de notre jardin, offrir notre présence à des personnes plus isolées que nous encore. C'est fou de constater à quel point donner permet de reprendre des forces. Et pour cela, il suffit parfois de parler. Je suis Sabine Calégari, psychanalyste, et jusqu'à minuit, je suis là pour vous, sur RTL, au 09 69 39 10 11. Au standard, Sarah et Théo vous accueillent et vous guident. Si vous souhaitez nous écrire pour réagir à ce que vous entendez, c'est par SMS au 64 900 code RTL ou sur la page Facebook RTL-parlons-nous. Avec Oriane Leport à la réalisation, nous pouvons commencer. Bonsoir Christian.
Bonsoir Sabine, je ne vous entends pas bien malheureusement, mais bon...
Vous ne m'entendez pas bien ?
C'est très très loin pour moi dans mon téléphone, mais je vais faire des efforts.
D'accord, alors l'équipe est en train de vérifier ce qui se passe pendant qu'on commence, Christian.
Ce serait gentil.
Là, il y a deux personnes qui s'en occupent et moi je commence avec vous en parlant le plus distinctement possible. Oui, en tout cas, je vous entends très bien.
Ah bah écoutez, c'est très très gentil, je suis très heureux de vous parler. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai l'impression que mon psy ne s'occupe pas bien de moi.
Oui.
Voilà, c'est... Ou alors c'est peut-être ce genre de thérapie qu'il me propose ou que j'ai choisi qui ne me convient pas en fait, puisqu'il s'agit d'une séance de type analytique.
Oui, donc c'est un psychanalyste.
C'est un psychanalyste, mais qui est psychiatre en même temps.
D'accord.
Voilà, et il me prend une demi-heure par semaine, parfois 25 minutes, enfin 30 minutes, très à la seconde près par semaine.
Mmh.
Et donc, il ne me dit strictement rien quand j'arrive, évidemment, il me laisse entamer le sujet.
Même pas une parole de bienvenue, quelque chose de chaleureux ?
Oui, il me dit bonjour et installez-vous, voilà.
Oui, et après, le minimum quoi.
C'est quand même le minimum. Et après, il se cale derrière son bureau et puis il me regarde, voilà.
Bon.
Et alors donc, j'ai un petit carnet où j'ai tout un tas de choses écrites et où j'essaye de travailler sur chaque séance, évidemment, pour avancer un peu.
Ça fait combien de temps que vous le voyez ?
Mais ça fait à peu près 6 mois, 5-6 mois.
D'accord, donc commencez la thérapie.
En fait, je commence la thérapie avec lui. Ce n'est pas la première fois que je vais voir des thérapeutes, je dois dire. Mais là, j'avais envie de recommencer pour différentes raisons. Et j'ai l'impression, en fait, voilà, qu'il ne prend pas soin de moi, qu'il n'est ni par ses intonations, voyez, ni par ses écoutes, ni son écoute. J'ai l'impression que c'est assez froid. Voilà.
Alors, vous pouvez pas vous tromper là-dessus, c'est forcément
j'ai
vrai.
L'impression, hein.
Bah oui, c'est ça. Vous savez, il y a deux choses dans la thérapie, enfin deux choses au moins. Il y a la conduite de la cure, on l'appelle comme ça. Donc ça, c'est la manière dont le psychanalyste, le thérapeute va guider la parole de telle sorte qu'elle guérisse, hein, pour faire simple. Donc ça, ça se réfère à son savoir guider la cure.
Et sa technique, oui, c'est ça.
C'est ça, exactement. Oui. Exactement, c'est à sa théorie, sa connaissance du psychisme et à sa technique. Et il y a autre chose qui est tout à fait fondamentale, particulièrement dans la référence psychanalytique, qui est le lien qu'on appelle en psychanalyse le transfert. Peut-être on pourra en dire quelques mots, mais en tout cas,
oui, avec plaisir.
Le lien, c'est tout à fait fondamental. C'est ce qui fait que il y a deux personnes qui vont se mettre ensemble au travail, toutes les deux avec un désir sincère. Donc la personne qui vient, qui est le désir de travailler sur elle, la personne qui reçoit, donc le thérapeute, le désir d'être là, le désir d'aider, le désir de guérir. Et ça, c'est une qualité de présence qui, en principe, se sent immédiatement.
Voilà. Voilà. Eh bien, je ne l'ai pas senti au départ. Je me suis dit, ça va peut-être venir, ou c'est peut-être moi qui n'aborde pas les choses, etc. Mais j'ai l'impression que c'est sa manière de travailler, c'est sa personnalité, probablement.
Oui, ben oui.
Et donc, je lui pose des questions, il me renvoie toujours à des sortes de concepts. Vous voyez, ça reste pour moi. Par exemple, il ne me parle que de renoncement, d'impermanence. Il me parle de concepts, mais j'ai l'impression que ce sont que des mots pour moi. Ça passe pas dans mes émotions.
Vous voyez. Oui, ben oui. Vous avez un exemple, par exemple, si vous vous souvenez d'une séquence de dialogue avec lui?
Par exemple, je lui parle d'un deuil sentimental qui est très difficile à régler depuis 10 ans et
oui.
qui m'handicape beaucoup, je veux dire, et où je lui dis voilà, il y a des quartiers de Paris où je peux plus aller, des musiques que je ne peux plus jouer ou plus écouter, des vous voyez des lieux comme la Méditerranée où je peux plus aller, des souvenirs que je suis obligé d'enfouir comme des déchets nucléaires un peu, vous voyez.
Christian, vous semblez souffrir beaucoup de ce deuil.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il a l'air encore d'être très à vif.
Il est très à vif encore, malgré plusieurs sortes de thérapies que j'ai faites. Et je m'en inquiète un peu parce que ça m'handicape, en fait. Donc, lui me parle que je ne m'adapte pas aux choses, pas au réel, et que j'ai peur, d'une certaine manière, de retrouver la liberté que j'aurai en lâchant tout ça.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Dans l'idée, probablement qu'il a raison, mais ça passe pas dans mes tripes, dans mon cœur, quoi.
C'est
mon...
ça, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Mais peut-être qu'il a raison, probablement. Enfin, je sais pas. C'est plausible, hein. J'ai l'impression que ça reste intellectuel, vous voyez, que ça reste...
Je comprends.
Voilà.
Donc vous ne pouvez pas vous en saisir.
Voilà. Voilà. Alors il me dit le fait de parler, on s'occupe de vous puisque vous me parlez, puisqu'on parle, mais ça ne me suffit pas, quoi. Enfin, c'est...
Oui.
Vous voyez, j'ai l'impression de voir un médecin à qui j'expose une maladie, mais il ne me donne pas de médicaments.
D'ailleurs, c'est un médecin. Parce que pour dire quelques mots des différents thérapeutes, il y a souvent des questions là-dessus. Peut-être que ça sera utile à ceux qui nous écoutent. Donc...
Je vous entends mal, Sabine, c'est terrible.
Ah, je vais essayer de parler le plus distinctement possible. Ça va mieux, là ?
Ouais, un petit peu mieux, oui,
d'accord.
C'est un peu mieux.
D'accord.
Ou alors c'est mon téléphone, mais j'entendais très bien votre assistante tout à l'heure.
D'accord.
Peu importe, je vous entends.
Voilà, donc on a plusieurs familles de thérapeutes. Donc il y a les psychiatres qui à l'origine sont des médecins. Donc quand vous dites comme un médecin, c'est un médecin. Qui sont formés au départ pour le diagnostic sur la maladie mentale ou les symptômes pathologiques. Et qui sont formés à l'entretien qui accompagne ou qui permet la prescription. Certains ont la double formation et font aussi une thérapie, enfin sont formés ou pas d'ailleurs, puisqu'ils ont le droit d'exercer même si c'est pas le cas, mais à l'origine c'est un médecin. Et puis il y a les psychologues qui sont les spécialistes du comportement, donc qui vont essayer quand il y a un comportement qui vous gêne de ramener ce comportement à une norme qui paraîtra plus vivable ou plus adaptée à la société.
Oui.
Voilà. Et les psychanalystes qui eux travaillent avec l'inconscient. avec l'idée que les causes de nos souffrances, qui peuvent être nos croyances erronées, qui peuvent être l'idée que nous avons de nous-mêmes, qui peuvent être des programmes automatiques de pensée ou des façons de se positionner, que ce qui est dans notre inconscient, que parfois c'est notre désir, que nous ignorons, influence, détermine notre vie et qu'il s'agit donc d'accéder à l'inconscient par la parole. Et bien sûr, l'inconscient, ce sont des pensées, mais ce sont aussi des émotions. Donc c'est très important, les émotions en psychanalyse.
Alors,
donc, voilà.
Allez-y. Oui, on a abordé un peu cette affaire d'inconscient, enfin cette affaire de peut-être pas d'inconscient, mais d'enfance, de petite enfance, parce que je me souviens très bien lui avoir demandé de savoir quelles étaient les blessures originelles dont je souffrais en fait pour souffrir de ce deuil encore et puis d'avoir eu en quelque sorte une vie sentimentale quand même assez désordonnée, très riche mais désordonnée au point où en fait je suis seul maintenant donc voilà tout ça n'est pas très agréable.
Ce deuil, c'était celui de votre femme ou de votre conjointe?
Ma conjointe dont j'avais divorcé, qui est la mère de mes enfants, est partie très jeune à cause d'une tumeur au cerveau.
Oui.
Ça, c'était une première chose. Et ensuite, je vivais avec une autre personne qui était musicienne et qui avait 30 ans de moins que moi et qui m'a quitté au bout de 11 ans. Voilà. Alors peut-être que ces deuils se superposent, je ne sais pas, enfin il y a peut-être des mélanges. Mais
déjà pour vous donner une indication, Christian, je vous le dis au passage, c'est qu'en fait on sait que d'après la théorie sur les traumas, on sait que se produit un premier traumatisme comme le deuil de la mère de vos enfants, c'est forcément un choc dans la façon dont ça s'est passé. Donc c'est un premier traumatisme et l'esprit humain est ainsi fait qu'il surmonte ou semble surmonter le premier traumatisme. Et ça peut être un deuxième traumatisme qui étant relié au premier, soit qu'il est de même nature, soit qu'il a un lien. Donc là, d'évidence, il a un lien, c'est qu'un deuxième traumatisme, peut réactiver le premier et dans l'après-coup, toute la charge émotionnelle non libérée du premier traumatisme peut se réactiver à l'occasion du second. Donc il est possible que dans le fait que vous souffriez tellement de ce deuxième deuil, il y ait aussi toute la charge émotionnelle ou la charge traumatique non guérie du premier qui été réactivé. Ça vous paraît possible ?
Ça me parle beaucoup, absolument, d'autant qu'entre-temps, j'ai perdu ma mère également.
Oui.
Donc, ça fait, je pourrais dire, ça fait trois femmes qui m'étaient très chères.
Trois femmes de votre vie, ben oui.
Les femmes de ma vie, trois femmes de ma vie qui ont disparu. Et j'ai appris il y a un mois aussi la disparition de ma première femme avec qui j'ai eu une belle histoire d'amour. Voilà. Donc, ça fait beaucoup.
Série terrible, au fond. Les femmes que vous avez aimées aujourd'hui ont, pour beaucoup d'entre elles, ont disparu.
Exactement.
Exactement. Oui, c'est pas rien.
Oui, c'est pas rien. Je suis d'accord avec vous.
Oui.
Et donc, voyez-vous, de cette thérapie, j'attendrais un peu d'empathie, de compassion. Enfin, j'aimerais bien qu'ils me prennent dans ses bras et qu'ils me disent c'est pas grave, on va arranger ça, cher ami. Enfin, voyez ce que je veux dire. Bon, je plaisante un peu là, mais
on peut prendre dans les bras avec des mots aussi.
Voilà, je trouve.
Mais
je
oui.
trouve aussi. Voyez.
Donc,
vous savez faire d'ailleurs.
Écoutez, en tout cas, ça me semble évident que c'est une forme d'amour. C'est pas un amour qui aliène l'autre. C'est bien qu'une personne qui vient nous parler est appelée à repartir libre dans l'existence. C'est même à ça que ça sert la thérapie. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait un échange d'amour sincère, qui, à mon sens, est fondamental pour guérir, parce qu'on passe par un lien humain sur lequel on peut transférer ces émotions, justement pour pouvoir les revivre et se positionner autrement par rapport à elles. C'est ça le transfert.
Oui, bien sûr.
Et comment pouvoir susciter un transfert si on n'engage pas de son humanité ?
Voilà, je trouve aussi. Je suis très heureux d'entendre ça. En fait, je m'attendais un peu à votre réponse, mais ça me fait du bien d'en parler avec vous, voyez. Oui. Parce que quand je lui parle de ses blessures originelles, de toutes ces blessures, il ne me fait en fait que renvoyer à l'image, sacro-sainte image du complexe d'Édipe et de ce petit garçon qui était amoureux de sa mère et qui était une chose impossible.
Mais sauf que votre mère...
Ça est plausible, mais ça ne me soigne pas, quoi, en fait.
Oui.
Ça,
et puis votre mère n'était pas morte quand vous avez connu ces deux premiers deuils?
Non, en effet. Mais nous parlons de lorsque j'étais bébé, enfant, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, un drame, dans ma jeunesse, dans mon enfance, et je n'arrive pas à savoir quoi. Lui pense que c'est juste cette histoire d'amour impossible. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par derrière, je ne sais pas.
Vous avez, parfois on a l'intuition, de même très vague, vous avez une légère intuition de ce que ça pourrait être le drame en question?
Pas vraiment. Hmm. Non, pas vraiment, parce que je vivais dans une famille très unie, de parents qui s'aimaient beaucoup, qui m'aimaient énormément. Alors peut-être le drame est que je suis fils unique, de parents enfants uniques aussi.
Oui.
Et que je n'ai pas de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, de cousins, de cousines, de nièces, de neveux. Je n'ai absolument rien familialement, sauf deux enfants. Et que je me suis construit un peu tout seul par rapport à mes parents et mes grands-parents.
Et
pour moi, ça, c'est une sorte de drame, en fait.
Oui, justement, quel genre de drame, ça? Comment vous diriez ça?
Pardon. Le petit enfant qui est toujours seul parmi les adultes et qui voit tous ses copains qui ont des frères, des sœurs et qui vont chez leurs cousins et qui vont passer des vacances chez leur oncle et leur tante, qui font des crêpes avec leur nièce et leur cousine. Vous voyez, j'ai une image de la famille complètement idéalisée. De chaleur familiale et que je n'ai pas et que je n'ai jamais eu, en fait.
Même avec la mère, un petit peu. Oui. Ensuite, vous avez pu créer ça avec la mère de vos deux enfants?
Oui, j'ai créé ça pendant une quinzaine d'années. Nous avons vécu en famille avec mes deux enfants, avec des amis, beaucoup d'amis qui venaient à la maison, en fait, très chaleureux, très la musique, les voyages, les vacances ensemble en couple. Voilà, j'ai connu ça.
Donc au fond, dans votre premier mariage, enfin je l'appelle comme ça, ou compagnonnage.
C'est mon seul, en fait.
Oui, enfin, votre mariage.
Vraiment mariage, mais. Oui. Avant, j'ai eu des aventures qui ont duré longtemps, mais je ne m'étais pas mariée avec les personnes, les femmes.
Est-ce que vous pensez que le fait que dans votre petite enfance, vous soyez fils unique, ça vous a conduit à investir très intensément les liens avec vos parents et les liens d'amour de votre vie, dans la mesure où finalement vos parents étaient tout pour vous?
Alors, je dirais oui et non.
Oui.
Je n'ai pas créé de lien particulier avec mon père, qui est mort assez jeune. Il avait 52 ans, moi j'en avais 27. Bon, j'étais pas petit, mais enfin. Et je n'ai pas un souvenir de lui très présent dans mon enfance, dans mon éducation. Il est transparent pour moi, on pourrait dire. Et en revanche, ma mère était très présente. Très couvante, etc. Et je me protégeais un peu d'elle, vous voyez, je voulais plutôt la fuir. Donc, en fait, j'étais pas très bien là-dedans. Entre un père que je trouvais transparent et une mère qui me saoulait un peu, en me disant de mettre mon passe-montagne quand j'allais dehors. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, le fameux met ton bonnet.
Mais, bah, exactement. Donc, ça s'est construit un peu comme ça. Mais en revanche, j'ai compensé, on pourrait dire, en cultivant l'amitié de manière assez remarquable. J'ai beaucoup d'amis et ça, j'ai ouvert là-dessus, vous voyez.
Vous savez, à travers ce que vous dites, enfin, J'ai, en première impression comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de foncièrement équilibré dans votre manière d'avoir traversé l'enfance, parce que même si, comme vous le dites, c'était pas très gai d'être... Mais bon, votre père était transparent, votre mère, vous auriez pu être aspirée par une relation fusionnelle, exclusive. Vous aviez plutôt envie d'éviter les excès et vous vous êtes investie dans le lien amical. Tout ça me paraît parfaitement équilibré.
C'est peut-être oui, c'est pour ça que je tiens encore probablement, d'une certaine manière. Mais bon, la seule chose à laquelle j'ai obéi à ma mère, c'est qu'elle voulait absolument que je devienne musicien, et pianiste notamment, et donc je lui obéis. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est ce lien-là.
Oui, au point de rencontrer une musicienne ensuite.
Voilà.
Oui.
Donc, un musicien a beaucoup de mal à vivre avec une personne qui n'est pas musicienne, et pas forcément qui joue, mais qui entend, qui comprend, qui pleure en écoutant Schubert et Chopin, comme je vous avais écrit dans mon petit message Facebook, que vous avez eu la gentillesse de lire, m'avez-vous dit.
Oui.
Donc cette sensibilité à la musique est évidemment très 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 grande pour moi et très importante et m'empêche de faire des rencontres d'une certaine manière parce
oui,
que je sens il y a une exigence là-dessus qui m'isole en fait, vous voyez.
C'est-à-dire que ce que vous voulez dire par là, vous voulez dire que si la personne n'est pas en parfaite résonance avec vous ou en harmonie, ça vous semblera moins intense que la musique ?
Oui. Enfin, j'ai besoin effectivement je l'ai vécu, notamment avec cette dernière relation dont je vous parle et dont ce deuil est si difficile, avec une musicienne qui était une de mes étudiantes d'ailleurs, et à qui j'ai appris énormément de choses, et nous étions en symbiose musicale, on jouait ensemble. Donc c'était la première fois de ma vie que ça arrivait d'ailleurs, et là j'ai eu une dizaine d'années de bonheur absolu avec ça, vous voyez.
Christian, si j'entends bien ce que vous dites, c'est que avec la mère de vos enfants, donc votre femme, vous avez réalisé un idéal familial.
Exactement.
Et vous avez perdu cet idéal avec sa disparition.
Exactement.
Et avec votre deuxième compagne, vous avez réalisé une autre forme d'idéal qui est l'idéal autour de la musique. C'est l'osmose dans la musique.
Voilà. Et maintenant, il n'y a plus rien.
Et une deuxième fois, vous avez perdu cet idéal.
Voilà, exactement. Oui, c'est très bien vu. C'est la paire de deux idéaux,
ben
absolument.
Oui. C'est les deux idéaux qui soutenaient votre vie. Enfin,
exactement.
Les deux idéaux, d'ailleurs, issus de votre enfance.
Exactement. Ah, mais bravo, mais oui, c'est exactement ça.
Oui.
Ah, vous avez tout compris, c'est merveilleux. Mais oui, c'est ça.
Alors, imaginez la détresse psychique, la détresse morale liée à la perte d'un idéal.
Mais oui.
Et de deux, forcément, ça se met en série. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours frappée sur l'esprit humain, c'est de prendre conscience du fait que la perte d'un idéal, ça pouvait être une des expériences les plus violentes qui soient. Ça, Freud le dit, dans Deuil et Mélancolie. Et parce qu'un deuil, c'est pas seulement la perte d'une personne aimée, c'est aussi un deuil terrible, c'est la perte d'un idéal. Et parfois, ça se conjugue, puisque vous, c'est un idéal que vous avez perdu en la personne aimée. Et je me souviens de ce que j'ai lu à propos de Gide, l'écrivain, qui toute sa vie avait été porté par l'idéal du communisme, et il est allé en URSS à l'époque, il s'est rendu compte de ce qu'était le stalinisme, et il a pris conscience à quel point c'était éloigné de son idéal communiste. Quelque chose s'est effondré, et chez Gide, il y a eu un trou noir de dépression après ça, parce que la perte d'un idéal, c'est une des choses les plus violentes pour l'esprit humain, pour l'âme humaine même, on peut dire, parce qu'on est porté par un idéal.
Je peux témoigner, effectivement.
Oui.
Et ceci dont je vous parle ne me parle pas du tout de ça, vous voyez. Au contraire, il veut me ramener juste au réel.
En fait, vous savez, peut-être que... alors, le réel, oui, enfin... D'accord, le réel, on n'a pas d'autre choix que d'en prendre hâte quand il se produit. Mais tous les réels ne s'équivalent pas. Et là, en fait, il me semble que essayer de ramener votre double deuil à une mesure commune, d'abord, c'est pas honorer vos sentiments et c'est pas honorer la vérité. Parce que ce sont deux histoires très singulières que vous avez vécues,
oui,
au sens justement où elles incarnaient l'une et l'autre un des deux grands idéaux de votre vie.
Oui, 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 exactement. Oui, parce qu'il me, dit toujours que je manque d'inadapté, je suis un peu inadapté au réel, qu'il faut concevoir que les choses sont terminées, que la vie est impermanente, que...
Ça se voit que vous avez compris.
Oui, j'ai compris. J'en ai rempli des pages, hein, vous inquiétez
bah oui.
pas.
Bah oui,
mais bon, on tourne en rond, quoi.
C'est ça.
On tourne en rond. Vous voyez, en un quart d'heure, vous me dites exactement les choses. Donc, c'est ça, quoi.
Il me semble, Christian, que pour vous, la dimension de l'idéal, elle est fondamentale dans votre vie. Vous en avez besoin pour vivre, pour respirer. Et
mais
que,
oui.
pour vous, le lien probablement qui vous conviendra, qui vous conviendrait, si vous aimez, je ne sais pas si vous souhaitez faire une autre rencontre, mais c'est...
Bien sûr, je ne souhaite que ça.
Mais en même temps,
j'ai 70 ans et j'ai très peur. Voyez-vous, j'ai très peur que ce soit terminé, en fait, tout ça. J'ai très peur de ça.
Oui, mais je crois qu'il n'y a rien qu'on puisse craindre plus dans une vie humaine que de vivre avec une flamme éteinte.
Exactement.
Peut-être vaut-il mieux prendre le risque de
d'aller de la rallumer.
Mais
de
oui.
rallumer
mais c'est oui. Parce que finalement, l'état dans lequel nous laisse le deuil, c'est la flamme éteinte, c'est le désir qui s'éclipse, qui nous déserte.
Oui.
Et une vie sans désir, c'est pas une vie digne de ce nom. On le sait quand on essaie de se lever le matin, quand on est porté par rien. Alors heureusement, vous avez toujours l'idéal de la musique qui, lui, ne dépend de personne.
Et je la partage et je l'enseigne encore, Dieu merci, je donne des cours de piano et à Paris et je suis très content comme ça de rencontrer beaucoup de monde. Il y a une dernière petite parenthèse, si vous avez encore 3 minutes.
Oui, bien sûr.
Ces deux... femme dont vous me dites effectivement qu'elle représente mes idéaux, avait une très grande différence d'âge avec moi, notamment la deuxième qui avait 30 ans de différence et la mère de mes enfants qui avait une vingtaine d'années de différence.
Oui.
Et ce schéma me convenait par-dessus tout.
Oui.
Ce serait un autre sujet à aborder.
Oui.
Mais pourquoi ai-je eu tant besoin et tant de... c'est un troisième idéal peut-être de vivre avec une femme beaucoup plus jeune.
Qu'est-ce que ça signifie pour vous une femme plus jeune?
C'est compliqué. C'est
peut-être vous le savez, mais c'est personnel.
C'est un peu personnel. Oui. C'est peut-être aussi oui, c'est personnel. C'est difficile à dire. On va dire que c'est difficile à dire.
Oui.
C'est peut-être l'idée de retarder ma propre vieillesse aussi, hein, et ma mort un jour ou l'autre. Mais c'est extrêmement gratifiant pour un homme d'être avec une femme beaucoup plus jeune. Enfin, moi, je le vis comme tel.
En tout cas, la jeunesse vous porte. Ça, la jeunesse,
énormément, intensément.
Vous porte.
Bah, intensément.
Oui, mais bon, je pense qu'il n'y a rien de critiquable dans cette configuration du lien, puisque tout le monde peut choisir.
Oui, oui. Je sais.
Oui.
Mais ça ne conduit pas forcément toujours à des grandes réussites. Mais bon.
Je sais pas, parce que là, finalement, on peut imaginer, enfin, vous savez, chaque fois qu'il s'agit d'amour humain, on est loin des clichés, parce que finalement, un cliché aurait pu dire, oui, avec une différence d'âge de 30 ans, c'est votre compagne qui va avoir à vivre le chagrin de la perte, et puis, la vie est imprévisible, et c'est pas
et
comme ça
fait,
que ça se passe.
C'est moi qui vis, qui vit son départ.
Bah oui. Donc.
C'est vrai.
Que faire des normes sur l'âge et vous aimez la jeunesse, autant vous en nourrir, c'est très bien.
J'aime la jeunesse et la musique.
Ben oui.
C'est vrai.
Ben oui. Qui pourrait trouver à redire ?
Oui, finalement, c'est pas si mal que ça, alors.
Bien sûr. Et je pense que vous savez, de le savoir, ça vous évite, ça vous permet de faire cette démarche vraiment aimante envers vous-même, de vous dire oui, moi je suis comme ça, c'est ça qui me fait vibrer. Et à propos de musique, c'est vraiment sans doute que la question de vibration est adaptée.
Très importante.
C'est ça qui vous fait vibrer, très bien. Donc autant adresser cette demande au monde et voir ce qui vous répond.
Eh bien voilà, bah déjà RTL l'a entendu.
Déjà RTL entendu, voilà. Mais oui.
Oui.
Et puis peut-être que vous aussi, le fait de décider de parler de ça, pas seulement dans un cabinet de psy, oui, mais à la radio, c'est un acte.
Oui.
Donc
oui.
Qui sait ce que l'on met derrière un acte?
Je ne sais pas. Mais oui. Effectivement, j'avais très envie de vous parler à vous, Sabine, parce que j'entends vos émissions depuis que vous êtes là. Et je suis scotché, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup des auditeurs. J'ai vu tous les témoignages qui vous concernaient. Voilà, vous faites un travail absolument extraordinaire. Et j'avais envie de ne pas rater cette occasion.
Ah, j'en suis très heureuse, Christian, vraiment.
Voilà.
Et par rapport à votre question, donc je crois que vous allez sentir ce que vous devez faire par rapport à votre psychiatre, psychanalyste. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'en toute chose, vous gardiez votre liberté. Après tout, vous êtes engagé dans aucun processus.
Absolument, absolument. J'ai déjà réfléchi peut-être à trouver une psychothérapeute différente. Enfin, trouver quelque chose. J'y réfléchis, vous voyez.
Oui. Vous savez, on n'est même pas obligé d'arrêter avec la personne avec qui on est en thérapie. Parfois, ça se pratique de voir quelqu'un d'autre pour faire le point sur son travail, mm-hmm, et voir simplement où ça vous mène.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Et puis ensuite,
bien
les
sûr.
Choses se font naturellement.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà.
Écoutez, merci infiniment.
Avec grand plaisir, Christian.
Je vais passer avec vous, très éclairant forcément, toujours.
Écoutez, j'en suis vraiment heureuse. Je vous souhaite une belle continuation. Je vous souhaite les belles surprises de l'existence. Et puis,
oui,
ce dont je ne doute pas, parce que en général, notre désir déclenche les réponses du monde, enfin, pour le dire comme ça.
Il paraît, oui. Mais par moment, ça se met en mode pause, peut-être, quand même. Mais bon.
Oui, mais c'est toujours là, à l'état de potentiel. Et ça, vous savez,
oui,
je reçois tous,
oui,
les jours au cabinet. C'est extraordinaire ce qu'on voit dans les vies humaines.
Oui.
Après,
oui,
on peut pas être désespéré quand on voit des choses comme ça.
J'imagine bien. Merci infiniment pour cette écoute. Merci. Et puis, je vous écouterai encore les quelques jours qui
Alors, reste. Merci à vous, Christian. À
c'est
bientôt.
Moi qui vous remercie.
Au revoir. Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant. C'est Parlons-nous, l'émission qui reçoit en direct vos questions et vous donne des clés pour les résoudre à la lumière de la psychanalyse. Quel qu'en soit le thème, n'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Et avant d'écouter Michel, je voulais nous lire un très beau message de Jacques. Bonsoir Jacques, s'il nous écoute, et merci pour souvent les messages très élaborés, très beaux que vous nous envoyez. Donc c'est un message pour Christian. Jacques dit « Christian, vos douleurs successives sont autant de difficultés accumulées que vous affrontez seul. Vous devriez changer d'interlocuteur afin de vous sentir en confiance et enfin écouté. Vous avez une grande intelligence émotive et vous méritez un bonheur sans ombre et en bonne compagnie dans l'avenir. Tous mes souhaits. » Et nous écoutons maintenant Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Alors Michel, de quoi souhaitez-vous nous parler ?
Eh bien, je vous ai laissé un message vendredi,
oui,
après le passage du jeune homme dont malheureusement je ne me souviens pas du prénom.
Tristan peut-être.
Oui, qui éprouvait des difficultés avec sa maman.
Oui, c'était Tristan.
Voilà. Et qu'il avait l'impression d'être pris comme un objet.
Oui.
Par sa maman.
Exact, exact.
Voilà, c'est ça. Et ça m'a beaucoup émue dans la mesure où moi aussi, j'ai eu une maman qui m'a traitée comme un objet.
Oui.
Et j'ai voulu réagir d'abord Bon, moi, je ne suis pas aussi jeune que lui, j'ai 60 ans. Mmh. Et je souffre encore de ça aujourd'hui. Et je voudrais que lui ne souffre pas jusqu'à l'âge de 60 ans, parce que j'ai perdu beaucoup de temps à me rendre compte de la manipulation dont je faisais l'objet.
Oui.
Par cette mère qui, quand j'étais petite, s'est très bien occupée de moi.
Oui. De vous, c'est-à-dire vous étiez fille unique ?
Non, j'ai une sœur plus jeune,
oui.
2 ans et demi plus jeune que moi.
Oui.
Elle s'occupait très bien de nous, elle nous soignait bien, nous ne manquions de rien. Sauf peut-être de la présence d'un papa qui était là, mais qui était un père absent. On ne réfléchissait pas à cet âge-là. Le papa travaille,
oui.
Et la maman s'occupe des enfants. J'ai appris bien plus tard que, en fait, c'était ma mère qui ne voulait pas que mon père s'occupe de nous.
Ah bon ?
Voilà. Voilà, j'ai appris ça alors qu'il allait bientôt mourir.
Ils étaient en conflit, vos parents ? Il y avait des difficultés dans le couple ?
Tous les jours. Il y avait des bagarres à la télévision. Je vais vous dire, mon premier souvenir d'enfant, je regardais une émission destinée pour aux enfants, donc. Et mon père est rentré, il s'est déchaussé, et il a lancé une de ses chaussures dans la télévision, sur l'écran de télévision. Voilà.
Donc c'est un souvenir d'un père en colère.
Voilà, un père en colère. Et donc, il y avait tout le temps de la colère à la maison, tout le temps des cris.
D'autant que c'est un geste très violent, la chaussure dans la télévision, enfin, ça a dû vous effrayer
oui,
beaucoup.
Oui, c'est un geste très violent. Et pour que je me le rappelle encore aujourd'hui, j'ai des petits chiens qui sont en train de se... Que ce chamaillé.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, Michel, dans votre famille ?
Ce qui s'est passé, c'est que grandissant, ma mère. A commencé à changer un peu d'attitude d'abord avec moi parce que je suis l'aînée.
Elle Vous aviez vers quel âge quand son attitude a changé ?
Je devais avoir 8 ans, 8-9
ans.
8 ans,
d'accord.
8 ans, oui, mm-hmm. 8-9 ans. C'était par rapport à l'école où j'avais de bons résultats scolaires.
Oui.
Et ma petite sœur avait de bons résultats aussi, mais elle n'était pas aussi, je vais dire, aussi douée. À l'enseignement qu'on lui donnait, peut-être que c'est parce qu'on lui, elle n'avait pas le type d'enseignement qui lui convenait. Il ne s'agit pas de juger de l'intelligence de quelqu'un ici. Et c'était tout le temps moi qui devais l'aider. Parce que ma mère n'était pas à la hauteur pour l'aider, elle n'ayant pas fait d'études.
Oui.
Et ce qui s'est passé, c'est que tout en grandissant, elle a fait cette différence entre ma sœur et moi, en nous montant l'une contre l'autre pour mieux régner, en créant une espèce de zizanie, mais aussi en m'assimilant moi plus à mon père qui était le méchant,
oui.
Et ma sœur à elle qui était la plus gentille, voilà. Parce que quand on est intelligent, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là,
oui, mais je
veux dire quand on obtient de bonnes notes, on est quelqu'un de mental et donc on a le cœur sec, voilà. Elle me disait tout le temps ça, que j'avais le cœur sec.
Ça, c'est ce qu'elle reprochait à son mari? C'est-à-dire que ça faisait partie des problèmes de leur couple?
Voilà.
Votre mère considérait que votre père n'était pas assez sentimental, affectueux et...
Voilà. Il avait le cœur sec et donc moi aussi, puisque j'obtenais de bonnes notes à l'école.
C'est ce que vous pensiez de votre père, enfant? Vous pensiez, vous aussi, qu'il avait le cœur sec?
Je ne savais pas s'il avait le cœur sec. Je ne savais que ce que ma mère voulait bien me dire.
Oui.
Et elle me disait que, enfin, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Mon père était trop... C'est vrai que mon père buvait beaucoup d'alcool. Mais est-ce qu'il buvait parce que c'était une... comment dire ?
Parce qu'il était malheureux ?
Parce qu'il était malheureux, voilà.
Mm.
Ou est-ce qu'il buvait parce que, bon, c'était une addiction, je n'en sais rien.
Oui, peut-être les deux d'ailleurs. Et votre père, lui, n'a jamais essayé de transgresser l'interdiction de sa femme d'investir ses filles, il n'a jamais essayé de s'approcher de vous?
Non, jamais.
Et vous, de lui?
Non, jamais.
Hmm.
On n'osait pas. Si on s'approchait de notre père, on avait directement des mots méchants de la part de notre mère.
Vous étiez considérée comme déloyale?
Voilà, déloyale, et tu vois, tu ressembles à ton papa, tu es méchante...
Oh là, et même pendant les vacances, parce que parfois les vacances d'été, ça amoindrit un peu les barrières, c'était pareil pendant l'été?
Eh bien, pendant les vacances d'été, nous allions au bord de la mer, et au bord de la mer, mon papa ne venait pas. Où il passait, il ne se déshabillait même pas, il passait et puis il repartait. Voilà.
Vos Jamais. Parents étaient quasiment séparés, au fond?
Oui, et d'ailleurs, ils ont... Enfin, moi, je ne sais pas vers quel âge ils ont pris cette décision, mais ils ont fait chambre à part assez rapidement. Voilà.
Donc, il n'y avait pas d'amour dans ce couple pour... À vos yeux d'enfant, il n'y avait pas d'amour.
Oui. Et puis, bon, les années avançant, moi, je me suis aussi mariée. J'ai eu deux fils. Et là, ma mère s'en est pris à mon mari.
Alors, simplement une petite précision, Michel. Entre ce tournant qu'il y a eu dans votre France vers vos 8 ans et ensuite jusqu'à la fin de votre présence à la maison, l'attitude de votre mère a persisté en vous mettant dans le camp des cœurs secs et des mauvais. C'était l'ambiance.
Elle disait tout le temps que j'étais méchante.
Oui.
Mais elle était fière. Elle était fière. Elle se montrait en tout cas fière de moi de par mes résultats.
Mmh.
Elle s'assimilait un peu à moi parce qu'elle n'avait pas eu la chance d'avoir fait des études, ayant été placée très tôt par ses propres parents dans un ménage, enfin bon, comme ça se faisait à cette époque-là.
Oui.
Et puis j'ai perdu le fil.
Oui, en fait, vous étiez en train de m'expliquer que vous vous étiez mariée et c'est moi qui vous avais interrompu pour vous demander si entre vos 8 ans et votre départ de la maison, votre mère n'avait jamais changé de ligne par rapport à vous, si vous étiez toujours le cœur sec, la méchante.
Oui, toujours.
D'accord.
Toujours.
D'accord.
C'est allé jusqu'à un jour, un repas de famille. Elle avait acheté 2 tableaux qui, ma foi, étaient beaux tous les deux. C'était des motifs floraux et il y en avait un qui était plutôt rouge et l'autre dans les tons pastels.
Mmh.
Et alors elle était toute souriante, elle dit voilà, j'ai acheté 2 tableaux, il y en a un qui représente Michel, donc moi, et l'autre, je ne vais pas citer le nom
de
ma sœur, Alors, celui de Michel, c'est celui qui est tout rouge, qui est toujours en colère, à qui on ne peut pas parler, à qui on ne peut rien dire. Voilà.
C'était vraiment binaire comme monde.
Voilà. Ça m'a beaucoup fait souffrir.
Bien sûr.
Longtemps.
Bien sûr.
Longtemps souffrir. À tel point que pour ne pas être méchante, je disais oui à tout le monde pour tout.
Oui.
Voilà.
Oui,
et c'est encore un problème aujourd'hui. J'ai du mal à refuser quelque chose et je vais parfois me mettre dans des situations où je dis oui alors que j'ai envie de dire non.
Voilà. Oui, cette étiquette de méchante, ça vous colle encore à la peau.
Ça me colle encore à la peau.
Oui. Donc vous disiez qu'ensuite, donc vous êtes mariée, vous avez eu deux fils et vous disiez que votre mère avait une attitude problématique envers votre mari.
Voilà, donc c'était pas quelqu'un de bien pour moi, il avait plein de défauts, il était violent, me disait-elle. Elle avait vu mon mari frapper violemment mon fils aîné, enfin bon, des choses pareilles. Toujours est-il que moi, bon, c'est vrai que le couple n'était pas non plus, je vais dire, parfait, mais j'ai décidé de me séparer de mon mari, qui lui me faisait toujours passer pour une moins que rien. C'est très bizarre.
Donc il y avait une forme de violence morale de la part de votre
mari.
Voilà,
également une violence morale. Et puis, quand nous avons été séparés, ma mère était contente. Et elle m'a demandé pour venir habiter chez moi.
Ah.
Pour quitter mon père.
Quelle demande surprenante.
Voilà. Et j'ai refusé.
Ça, c'était il y a combien de temps, à peu près?
C'était en 98.
98, oui.
98.
Un peu plus de 20 ans.
Voilà. Et à partir du moment où j'ai dit non, la vie est devenue infernale. La vie est devenue infernale parce que elle m'a pourri la vie. Ça a commencé par une convocation à la gendarmerie où j'ai appris là qu'elle avait déposé plainte contre moi parce que je m'étais introduite chez elle alors qu'elle finalement avait quand même déménagé, elle avait quand même quitté mon père.
Oui.
J'ignorais où elle habitait, que je m'étais introduite chez elle pour lui voler des chèques et faire des faux en écriture. Donc j'ai dû me soumettre à une expertise en écriture.
Oui.
Je suis sortie de là, j'étais comme un zombie.
Bah oui, vous étiez. Voilà. Bah oui, vous étiez.
Ensuite, elle a fait engager un détective privé pour essayer de prouver que je ne soignais pas bien mes enfants, pour essayer d'en avoir la garde.
Pour en avoir la garde ?
Oui.
Oui. Donc carrément un acte extrêmement hostile envers vous.
Voilà. Puis c'est devenu de plus en plus sombre. Je disais tout à l'heure à votre assistante Sarah. Je ne sais pas si je peux.
Oui, oui, vous pouvez bien sûr.
Je peux parler de ça. Un jour, elle me téléphone et elle me dit au téléphone, tu sais que ton père a couché avec sa propre mère. Je dis, écoute, je ne veux pas entendre des choses pareilles. Oui, et toi, tu as été sa maîtresse. Donc, j'étais la maîtresse de mon père depuis l'âge de 13 ans. Une maîtresse consentante.
Là, ce qu'on voit, Michel, c'est que à partir du moment où votre mère s'est séparée de votre père, on voit qu'il y a un point de rupture et qu'elle a basculé dans la pathologie.
Voilà, parce que moi, j'en ai parlé à mon médecin traitant, qui m'a dit, mais écoutez, je pense que votre maman a un problème. Elle a carrément cité le nom de schizophrénie. Je ne sais pas, moi je ne suis pas spécialiste.
Mais je dirais que ça ressemble à un délire paranoïaque, ce que vous dites là.
Voilà, un délire paranoïaque. Oui. Voilà. Et ma sœur et moi, on a essayé une seule fois de lui en parler. Elle a dit que c'était un coup monté, forcément.
Trait clinique qui caractérise le délire psychotique, donc schizophrène ou paranoïaque, c'est la certitude. Ce qui caractérise un délire, c'est que le sujet qui délire est dans la certitude absolue. Donc il n'y a pas moyen de l'amener à critiquer son propre délire ou à espérer une prise de conscience. Donc il est logique que votre mère, dès lors qu'elle semblait avoir basculé dans la pathologie, et se trouve dans une position de certitude absolue. Et chaque fois que vous lui adressiez un élément de la réalité, elle le reconfigurait dans son délire.
Voilà, exactement. C'est exactement ça.
Mais oui. Et votre mère a reçu des soins en psychiatrie ?
Ah non, parce que chaque fois que le médecin traitant mettait le doigt dessus, elle reprenait son dossier médical et elle allait voir un autre médecin.
C'est ça, donc en fait elle s'organisait pour ne jamais être confrontée, pour ne jamais être remise en question, parce que la remise en question était impossible.
Mmh.
Là, il y a quelque chose de lourdement pathologique dans le tableau qu'offre votre mère. Déjà, il y avait, vous savez, le côté pathologique, ça s'organise en deux temps. On a la structure de la pathologie, donc la structure de la paranoïa par exemple, et ça se repère un certain nombre de signes. Et la façon dont votre mère se comportait, c'est-à-dire l'autre ennemi, c'était votre père ennemi, puis vous ennemi, puis votre mari ennemi, c'est assez caractéristique, mais ça restait sur un mode violent, odieux, mais pas délirant. Et on voit qu'en fait, votre mère était probablement appuyée psychiquement sur son couple, même si elle le détestait, ça lui servait de détayage d'une certaine façon, ou d'équilibre, de compensation comme on dit. Mmh. Et dès lors que votre père est parti ou qu'elle l'a quitté, quelque chose a décompensé comme on dit.
Mmh.
Et là elle a basculé dans une autre, c'était pas juste la structure de la paranoïa, c'est qu'elle est entrée dans le délire paranoïaque.
Oui, c'est un vrai délire.
Ah oui. Parce que bon... Je vais vous interrompre un petit instant. On va continuer notre échange, Michel. Mais nous allons marquer une courte pause, le temps des informations. Et nous continuons notre échange. Donc surtout, vous ne quittez pas. Nous nous retrouvons dans un instant. Et pour ceux qui nous écoutent, le numéro de téléphone, c'est le 09 69 39 10 11 pour témoigner.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant, c'est Parlons-nous, votre espace pour tous les sujets qui vous interrogent ou vous soucient. Travail, couple, amour, famille, santé, toutes vos questions sont bienvenues au 09 69 39 10 11. Vous pouvez aussi nous écrire pour réagir, soutenir un auditeur par SMS 64 900 code RTL et toujours la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Et nous retrouvons Michel. Vous êtes toujours là, Michel ?
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Si vous permettez, je vais faire un résumé de notre échange pour ceux qui nous rejoindraient maintenant. Donc, Michel, vous avez appelé pour nous parler d'un problème de relation très dur avec votre mère. Donc, vous nous avez expliqué que votre mère a pris soin de vous et de votre sœur dans votre petite enfance et que les choses ont commencé à être difficiles vers vos 8 ans quand votre mère a fait deux camps entre vous et votre sœur. Votre sœur qui était le prolongement d'elle et puis vous qui étiez le reflet de votre père avec qui elle ne s'entendait pas. Et donc, de 8 ans jusqu'à la fin de votre vie à la maison, vous avez été celle qui avait le cœur sec, celle qui était la méchante. Et ça a duré, ça dure encore d'ailleurs. Ensuite, vous vous êtes mariée, elle s'en est prise à votre mari, qu'elle a critiqué beaucoup. Et après votre séparation, puisque vous vous êtes séparée, votre mère a conçu le projet un peu fou, il faut bien le dire, de s'installer chez vous pour elle-même se séparer de son mari.
Voilà.
Vous avez refusé et elle s'est déchaînée.
Oui, elle s'est déchaînée.
Oui.
Bon, je vous parlais de l'appel téléphonique où elle a dit que j'étais la maîtresse de mon père depuis l'âge de 13 ans et que mes enfants étaient en danger parce que j'allais probablement répéter la même chose avec eux. Voilà.
Et là, on voit les thèmes de délire, d'ailleurs. Donc, on parlait de paranoïa, en tout cas, d'un délire psychotique, probablement. On ne peut jamais être sûr, on ne peut pas faire de diagnostic à distance. Mais là, c'est tellement typique. On voit que dans ces délires-là, il y a toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Donc, il y a les thèmes de complot, au sens où vous ourdissez un complot contre elle, vous êtes introduite chez elle, vous l'avez volée, ça c'est des thèmes typiquement paranoïaques. Et puis il y a souvent des thèmes sexuels dans ces délires-là, où votre père lui-même avait connu l'inceste, vous avec votre père. Là donc quand on connaît ces traits, c'est très caractéristique de la pathologie, c'est très sexuel. Oui. Donc là, ça signe évidemment le délire. Et alors, c'est extrêmement douloureux à entendre, mais là, à ce niveau-là de délire, votre mère, me semble-t-il, a basculé dans la maladie mentale. Et j'espère que vous arrivez à vous protéger de ce qu'elle dit, parce que là, on est loin, loin de l'arrimage à la réalité, et encore plus loin d'un dialogue possible avec elle.
En fait, j'ai quitté. Je suis belge d'origine.
Oui.
J'ai quitté la Belgique et j'habite en France.
Oui.
Parce que voilà, c'était plus. Enfin bon, ce n'est pas parce qu'on s'en va que les problèmes s'en vont comme ça. Mon papa est décédé et malheureusement, En fait, elle était persuadée qu'elle n'a jamais accepté le divorce. Elle n'a jamais voulu divorcer de mon père. Et parce qu'elle était persuadée, vivant dans le régime de la communauté de biens, elle était persuadée de pouvoir récupérer la maison et l'argent que mon père avait gagné. Sauf que mon père, on a quand même décidé autrement au bout d'un moment, et il a fait un testament au nom de dont ma sœur et moi nous étions des bénéficiaires.
Oui.
Voilà. Alors. La haine, là, n'a plus connu de limite. Et ça fait 5 ans maintenant que mon père est décédé. Et le problème n'est toujours pas réglé.
Alors là, on a un autre élément clinique caractéristique dans la paranoïa, c'est les questions d'argent. Donc il y a thèmes du complot, il y a les thèmes du sexe et les questions de l'argent. On en veut à mon argent, on veut me soutirer mon argent, on veut me priver de l'argent auquel j'ai droit. C'est un classique aussi.
Donc je n'arrive pas, premièrement, à faire le deuil de mon papa.
Alors justement, Michel, il me semble que vous avez évoqué quelque chose au passage tout à l'heure. Vous semblez dire que avant la mort de votre papa, il y a des choses qui ont pu se dire et des choses que vous avez pu apprendre. Je crois que vous parliez du fait que vous avez appris que votre mère, elle, tenait votre père à distance. C'est ça ?
Oui. Là, on va rentrer dans l'émotionnel. Mmh.
Ça va, Michel ? Vous vous sentez de... Vous voulez qu'on laisse cette question de côté pour l'instant ?
Non, ça va aller.
Ça va aller.
Je vais le dire. Donc mon papa est tombé gravement malade. Il a fait plusieurs AVC.
Oui.
Elle l'a maltraité.
Ah bon ?
Elle l'a maltraité en venant régulièrement encore à la maison. Lui, il était fou d'elle et bon, il aurait fait n'importe quoi pour qu'elle revienne à la maison. Mais non, elle l'a maltraité. Et puis, quand elle s'est déchaînée contre moi, si vous voulez, elle en a parlé à toute la famille. Donc toute la famille était contre moi. J'étais la méchante, vraiment la grande méchante là.
Personne ne s'est aperçu des excès pathologiques de votre mère.
À part ma sœur,
oui.
qui elle-même doutait. Elle doutait. Elle m'a laissé le bénéfice du doute. Ce dont je la remercie. Et voilà, pour toujours, elle est là dans mon cœur à côté de moi. Et puis, progressivement, ma mère s'est attaquée à d'autres personnes parce que, comme moi, je ne répondais plus. Elle n'avait plus de chair à mordre directement. Donc, elle s'en est pris au mari de ma sœur, puis à ma sœur, puis elle à sa propre sœur. Enfin bon, finalement, toute la famille s'est bien rendue compte qu'elle était malade. Elle était complètement... comme on dit en Belgique, elle n'avait pas toutes ses frites dans le même sachet. Voilà. Et c'est quand mon père s'est retrouvé malade qu'il a commencé à se confier à moi.
Oui.
Et j'ai vu à ce moment-là tout ce que j'avais perdu.
Oui.
On ne s'était jamais pris dans les bras l'un de l'autre.
Oui.
Jamais.
Vous avez pu le faire à ce moment-là?
Oui, je l'ai fait, mais il perdait la mémoire. Il y a plusieurs AVC, il était très...
Très affaibli.
Il était très atteint.
Oui.
Voilà.
Vous savez, même quand on perd des facultés comme la mémoire, l'émotionnel reste intact. Vous avez dû vous en rendre compte auprès de votre père. Que tout ce qui procède des émotions, ça passe par d'autres circuits.
Mmh.
Est-ce que vous avez pu voir qu'il pouvait recevoir cette communication-là de votre part, celle des émotions?
Oui, son sourire.
Mais
on se touchait beaucoup, alors qu'avant, jamais on se touchait. Jamais.
Mais
donc les derniers mois, les dernières semaines... On se rapprochait de plus en plus, voilà.
Vous savez, Michel, je vais dire quelque chose, je fais simplement une hypothèse, mais qui va peut-être vous choquer, mais par rapport à vos regrets, finalement, c'est quand votre père a eu ses AVC, c'est-à-dire que la pensée rationnelle n'a plus été possible, qu'a pu se libérer chez lui quelque chose d'émotionnel. Au fond, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que peut-être qu'avant, ça n'était pas possible de vivre ça avec lui. Parce que durant toute votre enfance, au fond, même si votre mère faisait obstacle, votre père était là. Si jamais il en avait eu la possibilité psychique, et de ma part, c'est certainement pas un jugement, parce que chacun fait avec son histoire et c'est possible à un moment donné. Mais peut-être que pendant toute cette période, jusqu'à son AVC, il n'avait pas la possibilité psychique d'exprimer ses sentiments pour des raisons qui tiennent peut-être à sa propre histoire ou voilà, c'est peut-être des raisons profondes, complexes. Mais...
Oui, il avait des problèmes aussi avec sa propre mère qui préférait son cadet, là, qui préférait son cadet. Donc il a beaucoup souffert aussi. Je veux dire qu'il ne connaissait pas, il ne savait pas. Je crois qu'il n'a pas été éduqué au geste.
Oui.
Au geste tendre.
Ou peut-être qu'il a dû se protéger. En tout cas, il me semblerait dommage que vous preniez à votre charge tous ces regrets en disant tout ce que j'ai perdu. Peut-être que vous avez raison, mais peut-être que vous n'avez pas perdu au sens où ça n'était pas possible dans ces conditions-là. Et que justement, c'est peut-être le fait de... que l'AVC ait court-circuité la pensée rationnelle, dont toutes les défenses rationnelles qu'il mettait aussi, c'est peut-être ça qui a rendu possible l'accès à ses émotions.
Ça me fait du bien.
Oui. En tout cas, cliniquement, ça serait cohérent, vous voyez ?
Oui. Et aujourd'hui, quoi que je fasse, je rate mes entreprises. Je n'arrive pas à... Et je crois que c'est dû à ça. Et j'ai des douleurs. Des examens ont été faits. Et ce sont des douleurs dans l'abdomen. Et je me demande si ce n'est pas à cause de ça. Et comment je peux faire pour me débarrasser de ça.
Alors, quand vous dites que vous pensez c'est ça, est-ce que vous pensez que c'est ça, c'est vos regrets côté père, ce que vous disiez tout à l'heure, tout ce que j'ai perdu, ou est-ce que vous pensez que c'est le fait que vous ne puissiez pas vous adapter ou vous faire à cette situation côté mère? Comment vous voyez les choses?
C'est un peu des deux.
C'est un peu des deux.
Moi, la seule chose, maintenant, chaque fois que je la vois, parce que je suis obligée de me rendre à l'étude pour discuter de cette fameuse succession qui n'en finit pas, elle me fait des grimaces, enfin, bon, mais vraiment, elle se comporte comme un enfant. C'est terrible. Hein. Elle est allée voir des voyants, elle a. Des gens qui font de la magie noire, enfin bon, qui font de la magie noire, dit-elle, bon, il faut remettre les choses à leur place.
Je pense que c'est une expression de sa haine à elle, ce qu'elle dit là.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et tant que le problème ne sera pas réglé, J'ai peur de continuer à souffrir physiquement. Je souffre dans mon corps de ce qui se passe.
Vous savez, je crois que il y a deux choses, il me semble, que vous puissiez faire pour vous-même. La première, c'est de recevoir pleinement ce qu'a été le cadeau d'une rencontre possible avec votre père avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au fond, la rencontre s'est produite entre vous et lui avant sa disparition.
Oui.
Donc au fond, vous avez connu l'amour d'un père. Ça fait partie de votre vie.
J'ai eu de la chance.
Vous avez eu de la chance et tous les deux, vous l'avez voulu, puisque ça s'est produit. Ensuite, c'est le mystère des choses. Votre père peut être libéré de la pensée rationnelle. Vous voyez comment je le dis, même si l'AVC, c'est évidemment une tragédie, mais... a pu investir cette zone-là de son être. Vous étiez prête à l'accueillir, parce qu'après tout, après toutes ces années, vous auriez pu ne pas vous rendre disponible pour ça. Donc c'est une chance, mais vous l'avez voulu tous les deux. Et ça, vous n'avez pas manqué la rencontre. Elle s'est produite et vous l'avez vécue.
On a pu se serrer dans les bras.
Mais oui. Et ça, Michel, ça fait partie de votre être, c'est ineffaçable, c'est une telle force. Peut-être que vous avez du mal à le ressentir pour l'instant parce que c'est parasité par autre chose, mais c'est une force que rien ne pourra vous enlever, cette rencontre réussie avec un père.
Oui.
Et c'était déjà là à titre de potentiel. Ça, c'est un des trésors de votre vie intérieure. C'est une très grande solidité. Vous verrez, à un moment donné, vous allez le sentir. J'en suis sûre. C'est que là, pour l'instant, il y a des interférences. Et l'autre chose aussi que vous puissiez faire pour vous protéger, vous ne pourrez pas changer votre mère. Elle a basculé dans la maladie mentale. Elle n'a pas l'air du tout décidée à se soigner parce que c'est le monde entier qui est méchant et c'est pas elle qui a un problème. Donc il y a peu de chances que ça change, sauf à ce qu'il y ait un épisode tellement problématique ou hors la loi que le circuit psychiatrique se mettrait en marche. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de chance pour que ça change. Je crois que si vous arrivez à faire un deuil de votre mère, de son vivant, en disant que là, elle n'est pas là. Enfin, le sujet n'est pas là quand elle est dans la maladie mentale à ce point. Donc, il n'y a rien que vous puissiez prendre de bon dans le fait de continuer le lien. à part les strictes, le strict minimum nécessaire quand vous ne pouvez pas éviter d'être ensemble pour une démarche administrative. Mais pour le reste, je crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution pour vous que de couper radicalement le lien.
Elle ne changera pas.
Non. Non, alors, on pourrait dire, vous savez, en matière d'humain, il y a toujours un possible, un potentiel. Pour qu'elle change, il faudrait une conjonction de phénomènes qui fasse qu'il se passe quelque chose de suffisamment grave pour qu'elle soit obligée d'être soignée dans un premier temps contre son gré. Par exemple, qu'elle fasse quelque chose de hors la loi et que là, oui. Ce soit la psychiatrie qui s'en charge. Qu'elle soit soignée et qu'ensuite elle consente à continuer à se soigner en se rendant compte que grâce aux médicaments qu'on lui a donnés, elle n'a pas de délire et qu'elle est mieux comme ça. Vous voyez, il faudrait tout cet enchaînement de choses assez improbable là, actuellement, pour qu'un changement se produise. Mais spontanément, il n'y a aucune chance. Parce que vous savez, quand le délire se déclenche, c'est comme si une rivière sortait de son lit et ça n'y rentre pas spontanément, ça n'existe pas. Vous voyez.
Enfin, pour revenir à Tristan, loin de moi la pensée que sa maman souffre de la même pathologie que la mienne. Mais je crois que pour lui, c'est important qu'il vive.
Oui.
Qu'il vive et qu'il ne s'arrête pas à ce qu'on peut lui dire, à ce que sa mère peut lui dire.
Oui, qu'il ne consente pas au ravage, au fond.
Voilà, c'est ça. Mais et oui. que ça n'aille pas plus loin. Et parce que, bon, on s'enfonce dans un trou dont on n'arrive plus à sortir à un moment donné.
Oui. Vous pouvez en sortir, Michel, vraiment. Si vous pouvez vous appuyer intérieurement sur cette présence de votre père en vous et que vous prenez acte du fait qu'il n'y a rien à faire du côté de votre mère, ça ne vous appartient pas. Peut-être que si vous associez ces deux ressources, vraiment, vous pouvez aller beaucoup mieux.
Oui.
Donc c'est ce courage-là de prendre les plus grandes distances. Parfois, il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir continuer à vivre.
Oui.
Et donc Tristan était effectivement dans l'intention de vivre sa propre vie. Et je pense que c'est plus radicalement vrai encore pour vous, étant donné que votre mère est avancée dans la pathologie.
Ah oui, ça c'est... Mais je ne comprends pas comment... des personnes comme ça, parce qu'elle fait du mal autour d'elle. Ce n'est pas que moi au début, ça a été moi. Mais bon, elle fait du mal autour d'elle et je n'arrive pas... Je ne comprends pas comment on ne peut pas arrêter des personnes qui nuisent comme ça, qui sont...
Il y a un moment donné, il y a la loi qui peut les arrêter quand vraiment... ça sort de certaines limites. Si elle représente un danger pour elle-même ou pour les autres, là, il y a la limite de la loi. Il y a une procédure qui existe, c'est l'hospitalisation d'office, donc contre le consentement. Mais en dehors de ça, effectivement, il n'y a rien que vous puissiez faire. Et je crois qu'en prendre acte, ça peut vous permettre de prendre de la distance sans culpabilité, sans être accroché à un espoir. Vous voyez ?
Ah oui, mais je suis contente d'avoir quitté ma maison en Belgique et d'être venue m'installer plus loin. Voilà, et puis de vous écouter tous les soirs.
Ah, mais j'en suis heureuse, Michel. Dans ce cas, n'hésitez pas à nous redonner de vos nouvelles si vous le souhaitez.
Bien sûr.
Voilà. Vraiment, je ne peux que vous souhaiter beaucoup de courage de prendre les mesures bonnes pour vous, de vous appuyer sur ce qu'il y a de précieux en vous maintenant et de prendre toute la distance nécessaire pour vous aussi pouvoir vivre.
Oui, en tout cas, je vous remercie infiniment.
Avec plaisir, Michel. Prenez soin de vous.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Marie.
Ah, bonsoir Sabine et merci. Oh là là, je suis émue. Hein,
Vous verrez, Marie, ça va passer très vite. Après, oui, ce sera comme une simple conversation téléphonique entre nous.
Oui, oui, voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Je voulais. J'aurais tellement de choses à dire. Si je devais résumer ma vie, mon Dieu. Mon Dieu, que de choses à dire, que de choses vécues, très douloureuses. Oui. Très, très douloureuses. Bon. On va pas céder à l'émotionnel tout de suite. Hein. Je vais d'abord vous parler de ma solitude parce que je me sens très seule.
Oui.
Je suis à la retraite, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, je sais pas pourquoi. Je suis à la retraite et puis je
On ne peut pas entendre votre âge, c'est impossible à discerner.
Bon.
Oui.
Bon, bah, écoutez, peut-être que je ne souhaite pas le dire, je suis demeurée une grande coquette sans doute.
Alors, c'est très bien.
Sans doute. Et voilà, donc, j'ai soigné. Mon mari est décédé il y a 5 ans et je l'ai beaucoup soigné comme il se doit. Et c'était de mon devoir et c'était avec un grand cœur parce que je l'ai connu, j'avais 18 ans.
Ah oui?
C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimée et que j'ai aimé aussi. Et je me disais que j'avais eu de la chance de pouvoir aimer cet homme et d'en être aimée.
Toute une vie d'amour.
Oui.
Oui.
Et parce que je sortais d'une enfance tellement malheureuse que je trouve que c'est une grâce de pouvoir aimer et d'être aimée. J'ai bien choisi.
Oui.
J'ai su le choisir et il m'a choisi et c'est une chance pour moi.
Oui.
Parce que j'aurais pu ne pas pouvoir choisir un homme bien compte tenu de ce que j'avais vécu.
Bien sûr, on ne sait jamais donc à quel point nos blessures peuvent nous déterminer et ce qu'elles peuvent créer comme scénario de répétition, hein, puisqu'on appelle ça comme ça.
Oui.
Oui, et vous, c'est pas ce qui s'est produit. C'est pas du côté de la répétition, c'est du côté du vital que les choses se sont orientées.
Oui. Comme je disais, j'ai su renaître de mes cendres parce qu'on m'a tuée psychologiquement. Mon père m'a tuée. Ma mère aussi, sans le vouloir. Mon père a su ce qu'il avait fait de mal. Ma mère, je pense qu'elle n'a pas su qu'elle me faisait beaucoup de mal. Elle ne pouvait pas le voir parce qu'elle était très dépressive. Elle était tombée dans l'alcool. Je pense que pour survivre, elle a cru bon de boire, quoi. Et très jeune, ça peut paraître un peu présomptueux, mais quand je dis que je lui ai sauvé des années de vie, je pense que c'est vrai. C'est totalement vrai parce que j'étais seule avec elle.
Oui.
Mon père est en partie de la maison après avoir fait ce qu'il fallait pas faire. Et j'étais seule avec elle et puis elle était devenue grabataire et j'étais fille unique, hein, donc j'avais tout sur le dos.
Donc vous avez tout porté seule.
Ah oui, je portais seule, sans rien dire, à personne. Et donc, elle était devenue grabataire. Et du haut de mes 15-16 ans, un jour, elle ne voulait pas se soigner, absolument pas se soigner, elle ne voulait pas voir un médecin. Et du haut de mes 16 ans, je crois, j'avais 15-16 ans, j'ai téléphoné à un médecin et j'ai dit, voilà, il faut la soigner.
Oui.
Il faut la sauver. Il m'a dit, je vais la soigner, mais j'ai dit, il faut l'hospitaliser parce que moi, je suis seule, je ne peux plus rester avec une mère qui ne se laisse plus. Voilà. Et je lui ai tenu tête parce qu'il ne voulait pas l'hospitaliser alors qu'elle était grabataire. Hein.
Oui.
Et elle était tombée vraiment dans un alcoolisme très grave, puisqu'après, arrivée à l'hôpital, elle a fait une crise de délirium.
Ah bah en effet, c'était aux extrêmes.
Ah oui, c'était aux extrêmes. Oui. Et ce médecin, je n'ai pas compris, il voulait absolument que je reste avec ma mère, et ce n'était pas possible. Et je pense que j'ai été gravement culpabilisée, parce que ce n'est pas rien d'envoyer sa mère à l'hôpital. Hein. Je vous assure que c'est très culpabilisant.
C'est pas rien et c'est tellement vrai ce que vous dites qu'apparemment ce médecin ne voulait pas prendre cette responsabilité-là. Et préférez-vous laisser dans votre enfer que de prendre la responsabilité d'un acte qui n'est jamais facile à faire, d'hospitaliser quelqu'un contre son gré. Alors, c'est déjà pas facile pour un médecin, alors pensez pour un proche.
Oui, et pour une fille de 15-16 ans.
Ben oui, bien sûr, bien sûr.
Et ça a été très dur. Et je comprends mieux pourquoi j'ai été après convoquée par le médecin-chef de l'hôpital et qui m'a dit... Des jeunes filles comme vous, j'en ai jamais vu dans mon service.
Oui.
Elle m'a dit, elle m'a félicitée. Je lui en ai presque voulu à ce médecin, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi?
Parce que, qu'est-ce que vous avez, comment vous avez entendu ce qu'il vous a dit?
Je ne sais pas quelle résonance ça a eu, mais ça ne m'a pas fait plaisir, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Là, c'est trop dur à revivre, je ne sais pas.
En tout cas, aujourd'hui, vous vous en souvenez comme quelque chose, comme un hommage.
Oui, maintenant.
Oui, la manière dont vous le dites maintenant, ça a pris la valeur d'un hommage.
Oui, maintenant, et d'une reconnaissance.
Oui, c'est tout à fait ça.
Surtout d'une reconnaissance.
Mais oui, bah oui.
C'est vrai. Et après, je suis allée la voir, je suis toujours allée la voir à l'hôpital. Et lorsqu'elle est sortie de l'hôpital... J'avais peur qu'elle retombe dans l'alcool, je lui ai cherché du travail. Et puis, elle est allée soigner une dame. Excusez-moi, je bafouille un peu.
Non, c'est très clair, on vous suit très bien, ne vous inquiétez pas, Marie.
Merci. Donc, elle est allée soigner une dame âgée excusez-moi, mais c'est tellement dur de se remémorer ça.
Oui.
Donc, voilà. Et cette dame âgée, elle a pris soin de cette dame âgée qui avait un fils célibataire et ils se sont mis ensemble, ils ont été heureux pendant quelques années, jusqu'au moment, quelle joie de voir ma mère heureuse, enfin.
Oui. Ça a dû alléger un poids de vos épaules.
Oui. Et puis mon père s'en est mêlé parce qu'il a fait du mal jusqu'au bout. Comme il n'était pas divorcé, il l'a fait prendre en adultère. Et le couple, à l'époque, ça existait. Je ne sais pas si ça existe encore, mais bon.
Aujourd'hui, divorce pour faute n'existe plus sous cette forme.
Ah oui, voilà. Donc il l'a fait prendre en adultère, ils se sont séparés. L'homme avec qui a pris peur, ils ont pris peur tous les deux, ils se sont séparés. Et elle a fini sa vie seule. Elle avait 54 ans. C'était une femme intelligente, très belle.
Et ça a tourné à la tragédie.
À cause de... Voilà.
À cause de...
De mon père, je dirais.
Et puis aussi peut-être à cause... Enfin, quand on dit à cause, il ne s'agit pas de juger, bien sûr, mais du fait que votre mère n'a pas pris le chemin des soins et de la guérison durablement.
Oui, elle était... peut-être, je ne sais pas... Je ne vois pas trop ce que vous voulez dire. Elle ne s'est pas soignée, vous voulez dire pas...
Peut-être que votre mère, face à cette épreuve de la séparation, elle est encore, elle est encore fragile.
Ah oui, bien sûr.
Et peut-être que même si elle avait retrouvé un bonheur dans ce couple, peut-être qu'elle-même, son terrain, si on dit des choses comme ça, on a un terrain physique, mais on a un terrain psychique aussi, peut-être que la faille était encore là et donc elle n'a pas pu supporter la séparation.
Non, je pense effectivement qu'elle n'a pas supporté. Et moi, j'étais à ce moment-là très loin d'elle. J'étais à Paris. Elle était dans un petit coin de province.
Oui.
Et je lui écrivais, mais pas suffisamment. Je pense que c'était. Je dirais que c'était sa destinée, quoi. Enfin, c'est pas.
En tout cas, sa trajectoire. C'était sa trajectoire. Et en aucun cas votre responsabilité. En aucun cas.
Ah oui, non. non, non, mais je me suis pas sentie responsable. Si j'ai un regret, c'est peut-être de ne pas lui avoir écrit plus souvent. C'est tout. Mais bon, voilà, j'avais fait le maximum pour elle et ça, je le savais que j'avais fait le maximum pour elle. Oui. Et quand je me suis mariée, je me suis mariée très jeune, à 19 ans, et je me disais, bon, maintenant j'ai le droit d'être heureuse.
Oui.
Voilà, je me suis dit, j'ai le droit maintenant, je peux être heureuse. Voilà. Je me suis dit, j'en ai assez fait pour ma mère.
Tout à fait. Et elle-même s'était à un moment donné autorisée à être heureuse aussi.
Oui, aussi.
De ce point de vue-là, on peut dire qu'elle vous avait ouvert la route.
Oui, aussi, oui. Et elle était très heureuse quand on allait la voir avec mon mari, et son compagnon, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, était aussi très heureuse de nous voir.
Donc voilà. Là, il y a eu du bonheur.
Oui, il y a eu du bonheur.
Oui,
oui. Oui, il y a eu des belles choses quand même.
Oui.
Et puis, voilà, je vais en venir très vite à ce que je vis là actuellement, qui est difficile pour moi, c'est que je suis seule. Je vous l'ai dit, je suis veuve depuis 5 ans.
Oui.
Et puis, mon mari et moi avons décidé de revenir, comme on dit, aux sources. Alors, revenir aux sources, c'est revenir dans une province. Dans le centre de la France, dans laquelle moi je n'y sens. Enfin, ce petit coin de campagne, j'en peux plus, quoi. J'ai une jolie maison.
Aujourd'hui,
j'ai un petit chat que j'adore.
Oui.
Mais je me sens pas bien, quoi. Je me sens trop seule.
C'est ça, aujourd'hui, c'était un mode de vie qui vous convenait quand vous étiez dans cette bulle à deux, puisque vous étiez très heureux ensemble. Mais là, aujourd'hui, ça ne convient plus.
Non, ça ne me convient plus.
Oui.
Ça ne me convient plus du tout et j'en suis malheureuse, quoi. Et il y a des solutions, j'ai des solutions, mais je sens que je bloque. Je bloque et je vais vous dire, et je suis très embêtée de dire ça parce que ça me paraît anormal. Je dirais que ce doit être une excuse. Je bloque à côté à cause d'un petit animal là qui est présent, qui est avec moi, là, à cause d'un petit chat. Je vais être plus explicite.
Oui.
J'ai la chance. J'ai une maison dans un coin de campagne et dans laquelle je me plais plus. Mais j'ai la chance d'avoir un appartement un petit appartement dans une ville à l'échelle humaine.
Oui, donc vous avez une solution possible sans trop de révolution dans votre vie.
Oui.
Oui.
Voilà. Ce serait la. Mais quitter une maison pour aller dans un petit appartement, ça me pose question quand même. Et puis alors, je vais en revenir à ce petit chat.
Oui.
J'adore ce petit chat. Et je me dis, il est très malheureux dans un appartement, lui.
Vous croyez? Vous croyez?
Ben oui, je sais, parce que j'ai l'expérience. Là, il est toujours dehors et quand on enferme une bête dans un appartement, même s'il y a un balcon, il est malheureux, je le sais. Et moi, je suis malheureuse avec ce petit chat dans l'appartement. Enfin, je dis que c'est à cause du petit chat, mais bon, là, c'est une parenthèse vraiment qui...
Est-ce que vous avez pensé que peut-être cet appartement serait une transition? Ce serait peut-être pas une solution définitive. Après tout, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Il me semble que là, aujourd'hui, ce coin de campagne, comme vous dites, vous met dans l'isolement, ça c'est sûr.
Oui, oui.
D'ailleurs, c'est ce dont je parlais en introduction de l'émission, l'isolement, qui est quelque chose de très, très problématique parce que l'isolement est nuisible à notre santé physique, psychique.
Oui.
Donc, c'est vous sortir de l'isolement, c'est une nécessité, vraiment.
Oui, vraiment. Oui,
et,
je le sais. Je le sens.
Voilà, vous l'exprimez très bien. Et tant que vous êtes à la campagne, bah c'est réel, c'est pragmatique.
Non.
C'est que c'est très difficile de recréer les liens sociaux. On ne sait pas quel type de lien, tout lien dont vous avez besoin. Donc peut-être que finalement la possibilité que donne votre appartement, c'est que vous avez une transition qui n'est pas trop révolutionnaire, sans branle-bas de combat pour vendre, acheter, déménager. Et peut-être que vous pouvez l'envisager comme ça, avec le petit chat qui peut s'adapter pour un temps.
Pour un temps, oui.
Et après, voir où ça vous mène.
Oui. Mais j'ai des investissements. Cet appartement, je l'avais investi. après le décès de mon mari, en tant qu'avec mon mari, et après aussi le décès, j'ai reparti avec grand plaisir au bout de oui, j'ai reparti avec grand plaisir. Je confiais mon petit chat à la voisine et j'y repartais avec grand plaisir.
C'est important, ce plaisir.
Et j'y ai passé aussi l'hiver avec le petit chat. Mais j'ai eu une intervention chirurgicale, j'ai eu la pose d'une prothèse. Et j'ai désinvesti cet appartement. Maintenant, je m'y sens moins bien. Là, j'ai tous les spécialistes de santé dont il me faut maintenant, même si je suis comme relativement en bonne santé. J'ai une protection aussi si je chute. Voilà, il y a une association qui me viendrait en aide. J'ai de très bons voisins. J'ai des voisins qui, je sens, veillent sur moi, quelque sorte, entre guillemets. Et là-bas, je n'ai pas ça. J'ai une bonne copine, mais actuellement, je suis plus insécure là-bas. Je ne sais pas pourquoi.
Oui. En fait, l'isolement dont vous souffrez dans votre maison de campagne, donc vous êtes entouré de voisins et vous vous sentez en sécurité, c'est... Est-ce que c'est le manque d'opportunités, de nouvelles rencontres? Est-ce que c'est ça que vous ressentez comme isolement dans cet endroit?
Vous voulez dire dans l'appartement?
Dans votre maison, puisque vous dites que là, l'appartement, vous ne semblez pas très encline à y aller. Enfin, vous dites que vous l'avez désinvesti.
Oui, je l'ai désinvesti.
Oui. Et votre maison actuelle, si vous ressentez de l'isolement, c'est à cause de quoi au juste?
Bon, manque de contact.
C'est ça, vous n'avez pas beaucoup d'opportunités de rencontre.
Non. J'en avais créé lorsque je suis venue, lorsque j'étais encore... Mon mari n'était pas décédé, j'ai fait du bénévolat, je faisais beaucoup de choses. Mais là, je venant, j'ai cessé tout le bénévolat. Et je manque beaucoup de contacts. Moi, j'ai travaillé, j'étais secrétaire médicale et donc j'ai reçu beaucoup de monde. J'ai plein Paris, j'ai travaillé 25 ans avec le même médecin, 25 ans. Et je recevais les patients, voilà, je les introduisais dans la salle d'attente, je m'occupais en quelque sorte des patients, quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, Marie, imaginons que vous sortiez de cet endroit de campagne pour rompre l'isolement. Comment vous envisageriez de vous y prendre? Comment vous imagineriez votre vie dans un autre endroit, à l'idéal?
Je n'imagine plus maintenant. Je suis âgée, j'imagine plus.
Dites-moi.
J'aurais un souhait, ce serait de rencontrer un compagnon. Voilà.
Alors, dans ce cas, est-ce que, si c'est votre souhait, il ne vaut pas mieux que vous le fassiez là où vous êtes basé, dans votre maison? Est-ce que dans ce cas, si votre souhait, ce n'est pas de rompre un isolement géographique et d'aller plutôt à la ville qu'à la campagne, mais que vraiment ce que vous souhaitez, c'est d'encontrer quelqu'un?
Quand même, ça me tient à cœur de retrouver la ville. Mais je pourrais le faire temporairement.
Vous pourriez le faire si vous étiez deux à envisager ce changement.
Oui.
Parce que tout est plus léger quand on est à deux.
Bien sûr. Moi, je ne me sens pas faite pour vivre seule. Je disais justement, je suis une assoiffée de tendresse.
Comprends.
Ah oui, je suis vraiment assoiffée de tendresse à recevoir et puis à donner.
Et dans votre souhait de rencontrer quelqu'un, vous savez comment vous y prendre? Est-ce que vous avez des idées?
Non, franchement, j'ai pensé au site de rencontre, mais non, c'est pas ma tasse de thé, ça. Non. Mais il y a une autre chose, un autre sujet peut-être que je voudrais aborder, c'est que je regarde l'heure, peut-être qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'ai eu trois enfants.
Oui.
J'ai eu trois enfants. Et j'ai un souci avec un de mes fils que j'aide beaucoup. Et les deux autres sont assez distants.
Oui.
ils savent que j'ai eu une enfance très très douloureuse. Mais j'ai pas voulu dire, par pudeur pour les épargner, je suis pas entrée dans les détails.
Oui.
Et je les sens pas très présents.
Ah.
Je les sens pas très présents. Et ça, j'en souffre aussi.
Oui.
J'en souffre. J'aimerais un petit peu plus de présence.
C'est récent le fait qu'ils soient pas très présents?
Pardon.
Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça date? Est-ce que c'était déjà le cas quand vous étiez avec votre mari? Est-ce qu'ils ont été plus présents, par exemple, juste après votre deuil et moins une fois qu'ils ont pensé que le deuil était traversé? Parce que ça peut arriver aussi.
Oui.
Depuis quand, en fait, les sentez-vous insuffisamment présents?
Ma fille a été présente un peu après le deuil. Oui, je le sentais. Enfin, semblait vouloir m'aider. Et c'est ma fille qui a été la plus présente. Et puis j'ai un de mes fils qui, justement, après le décès de son père, m'a dit mais c'est peut-être l'enfant avec lequel j'ai été la plus proche.
Oui.
Oui. Je pense que oui, on était très proches l'un et l'autre. J'ai beaucoup ri avec lui à l'adolescence. Et puis quand il a eu des soucis maritaux, il est toujours venu vers moi me confier ses soucis. Et je l'ai toujours écouté, alors que des fois c'était très lourd pour moi. Mais j'ai écouté, je me disais je dois l'écouter, voilà. Et je l'écoutais sans lui donner de conseils. Hein.
Oui. Allô Marie? Ah, j'ai l'impression qu'il y a une coupure de son. Donc Marie nous parlait de son fils. On ne sait pas si on va pouvoir reprendre. En tout cas,
bonjour.
Donc on est sur la messagerie de Marie. Donc c'est un petit incident technique, ça arrive. Ce sont les inconvénients du direct. Donc nous allons faire une petite pause musicale, le temps d'essayer de retrouver Marie et de lui dire au revoir de façon un peu plus chaleureuse.
22h minuit, parlons-nous. Sabine Calégari sur RTL.
Et ce sera bientôt le moment de nous quitter. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer ensemble avec Marie, avec qui nous nous entretenions de la difficulté et de la solitude. Voilà, nous aurions aimé pouvoir prendre le temps de dire au revoir à Marie. Nous aurions aimé pouvoir la laisser parler de ses difficultés avec ses fils, puisque Marie aurait souhaité plus de présence de leur part. Mais en tout cas, nous remercions Marie pour tout ce qu'elle nous a dit de la solitude, tout ce qu'elle nous a confié de sa vie. Elle nous a montré aussi que on pouvait toujours avoir envie de sortir de l'isolement et de chercher des solutions, et on souhaite de tout cœur que Marie puisse le trouver avec la personne de son choix. Et nous remercions également Christian et Michel pour les deux beaux témoignages de ce soir. Et pour ma part, je vous retrouve demain en direct à 22h. Et d'ici là, n'hésitez pas à appeler le numéro de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Toutes vos questions sont bienvenues. J'écouterai chacun de vous avec le même plaisir. Sachez que à tout moment, le répondeur est ouvert. 09 69 39 10 11. Et quand vous appelez peu avant l'émission, vous avez directement Sarah et Théo au téléphone. Je vous souhaite une très belle nuit.